Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 23 janvier 2023. Ça fait 2-23. Vous écoutez Flash sur le Monde par Elise Bock pour Radio Silence. Alors, à la suite des Twitter Files, hein, dont on a parlé la dernière fois dans notre dernier Flash, il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations, notamment... On apprend que depuis le 2 novembre, quelques jours avant les élections de mi-mandat, le FBI était tombé sur des documents en provenance de la Maison-Blanche lors du mandat Biden-Obama, et que des documents étaient classés. Certains sont classés top secret et n'auraient jamais dû quitter la Maison-Blanche. Ou plutôt ne devrait pas se trouver dans les mains de l'ancien vice-président qui, en tout état de cause, ne peut pas être en possession des documents classés top secret. C'est un mandat qui date de 2008 à 2016, hein, donc ça fait un bail que M. Biden a ces documents-là. Et c'est vrai qu'on se dit, mais déjà, ils ont découvert les documents, le FBI, soi-disant, a été alerté par les avocats de M. Joe Biden sur la découverte de ces documents. Oh, bah oui, comme par hasard, pratiquement 8 ans de mandat Obama, plus 4 ans de Trump et les 2 ans de Biden, ça fait 8 plus 6, ça fait 14 ans que M. Biden est en possession de ces documents secrets. Et personne ne s'en est aperçu à la Maison-Blanche qu'il manquait des documents, évidemment. Donc c'est déjà... une question assez embarrassante parce que, à la fois, le président Trump, il a toujours fait preuve de beaucoup de clémence envers ses démocrates véreux. Par exemple, Madame Clinton avait été prise la main dans le sac, donc ce qu'on appelait le pay to play, c'est-à-dire des gens qui devaient d'abord financer l'initiative de l'association qu'on appelle l'initiative humanitaire de son mari Bill Clinton. Il devait payer avant de bénéficier d'une clémence dans la gestion des affaires étrangères, de la diplomatie menée par son épouse Hillary Clinton, voyez un peu, au temps d'Obama. Donc on disait « pay to play », vous payez d'abord et après on verra ce qu'on peut faire. Vous financez d'abord la campagne, l'association de mon mari, ex-président de son État, deux mandats aussi, et puis après, ben vous pourrez bénéficier des faveurs de l'Amérique qui distribue l'argent comme on distribue les petits pains. Entre-temps, il lui manque toujours de l'argent pour relancer son budget annuel. C'est tout le temps le même cirque. En ce moment, on y est. Il faut trouver de l'argent, mais on finit toujours par trouver cet argent parce qu'il suffit d'augmenter continuellement le plafond de la dette ad vitam aeternam. Donc l'Amérique est endettée pour l'éternité et c'est déjà automatique, ça ne tient même pas compte des données macroéconomiques. C'est comme ça, et même la nouvelle équipe républicaine majoritaire à la House ne pourra rien faire, elle pourra que constater les dégâts, et puis voilà, ça se passe comme ça. Donc on revient à M. Biden, dont on découvre que le 2, une première saisie des documents a eu lieu dans un think tank, institut politique dissimulé quelque part d'ici Washington. On trouve des documents, le 2, et les mi-termes ont lieu le 6, et puis on dit rien. On nous annonce ça, là, il y a 2 semaines, que oui, mais en fait, le 2, on avait trouvé des documents chez M. Biden. Mais oui, mais depuis, pourquoi cela n'a pas été dit? Mais c'est qu'entre-temps, les Twitter files sont passés et le FBI a envie de voyez, de se blanchir, de devenir plus propre que je ne sais pas quoi. Donc, les Twitter files se condamnent nettement le FBI sur sa complicité, pas seulement complicité, oui, c'est plus sur son implication directe dans la fraude électorale qui a eu lieu en 2020, récemment, 2020, pour remplacer le président Trump. Ça, on en a déjà parlé. Alors, Monsieur Biden, voilà, il est sous la pression, hein, parce que non seulement il y a les Twitter Files qui révèlent tout le rôle que Twitter a joué. Vous allez réécouter notre flash, hein, vous allez notre flash antérieur à celui-ci qui indique très bien ce qui s'est passé avec les Twitter Files, où on a censuré toutes les informations qui aurait pu porter préjudice au président Joe Biden dans cette élection. De toute façon, il n'a pas fait campagne. Twitter, avec sa censure et tous les autres médias sociaux, ont fait campagne à sa place et pour lui, en rétention d'informations, confusion. On appelle ça un langage communication, enfin un langage spécialisé, l'entropie. Bon. Plus loin encore, pour aller plus loin encore, il y a le fait que, bon, la donne a changé quand même, les républicains sont là à la House, et ils annoncent des enquêtes approfondies sur, qui concernent aussi le FBI, la détention de l'ordinateur portable du fils Biden, le que l'ordinateur devrait contenir des informations compromettantes ayant certainement une liaison avec, étant en liaison avec les documents qu'on découvre maintenant, parce que dans ces documents qu'on découvre, à la fois dans ce think tank du président Biden, qu'on découvre dans son domicile, vraiment garé, placé comme ça, parqué dans un garage, qu'on découvre près de sa Corvette, vraiment négligemment, c'est même pas comme si c'était des dossiers secrets, c'est comme des choses rangées là, empilées là. C'est vrai qu'on dit caché, comment on dit ça? Hidden in plain sight. C'est-à-dire que c'est là devant vous et puis c'est tellement exposé que vous vous dites que ce n'est pas important. Comment ils justifient ça? Alors c'est marrant parce que lorsqu'ils sont allés raider le domicile du président Trump, pour les mêmes raisons, cherchant des documents avant que les Twitter files, on a posé la question au président Biden qui a eu la réponse vraiment, alors c'est ironique, disant que oui, mais vraiment, que pensez-vous, monsieur le président, du fait qu'un ancien président puisse être en possession des documents classés top secret, non déclassifiés, comme on dit? Il a dit non, mais vraiment, c'est très irresponsable, il pense que c'est irresponsable une telle conduite, alors que lui, ça faisait 13 ans. Enfin, je sais plus, 8 ans, plus 4, 12, 13, oui, voilà, patron 15 ans qu'il est en possession des documents, on va dire, laissant tomber 2016, depuis 2016, fin de mandat, il a les documents chez lui, c'est irresponsable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais je sais pas, on n'a plus pensé, j'ai oublié, mais c'est tellement gros, mais pourquoi le 2, on ne dit pas cela? Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire quand même qu'il y a une pression déjà qui s'exerce sur le FBI et que le FBI est obligé de réagir. Et il va sacrifier le président Biden, forcément. Parce que là, c'est soit le président, soit le FBI. Et de toute façon, les républicains annoncent, en cas de victoire de Donald Trump ou de, je sais pas, président républicain, qu'ils vont refondre totalement le FBI. Alors le FBI, il joue sa tête maintenant, sa survie, et puis ben, advienne que pourra, même CNN, le grand ordonnateur du Parti démocrate pour la fraude électorale, un peu, voilà, changer un peu de braquet, s'est dit oui, mais finalement, ce président, ça va pas du tout. Il donne des signes d'affolement et de faiblesse qui sont assez inquiétants. Bon, au fond, dans le fond, finalement, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on doit dire? Deux ou trois choses. Premièrement, c'est que la fraude électorale est inscrite au cœur même de la démocratie américaine et que les démocrates manipulent cette fraude au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors là, il y a les élections. Le 6, on découvre un document. Le 2, on dit rien. des documents compromettants, enfin compromettants sur la moralité des démocrates, le VIA ne dit rien. On découvre, c'est la même chose hein, quand on a découvert que finalement le FBI a tout fait pour couvrir Biden afin qu'il gagne les élections, bah, c'est toujours la fraude. On voit aussi qu'en Californie, là, vous savez, le vote par correspondance, il devient un casse-tête chinois. En Californie, ils ont dû disqualifier, comme on peut dire, invalider, pardon, la moitié des bulletins de vote, vous vous rendez compte? Parce que pas tout à fait, pas correctement renseignés, d'autres qui arrivent après les délais, etc. Mais c'est une histoire de fou. Donc, si vous invalidez la moitié du corps électoral d'un État, mais vous croyez que vous avez quoi comme résultat? Et cette invalidation, elle est faite, on va dire, par ceux qui sont dans le bureau de vote. Je sais pas. C'est triste pour la démocratie, c'est triste même pour l'idée que l'on se fait du politique que l'on se faisait. Bon, on n'est plus à ça près, hein. On sait maintenant que ce sont tous des voyous, mais quand le FBI, quand les institutions sont atteintes à ce point et participent de cette sclérose, il y a un problème, il y a un problème. Alors, il y a Carl Tucson de Fox News qui a fait un billet où il dit carrément que cette histoire, ça date de Nixon, qu'on se plaint maintenant, peut-être parce que on est là chaud, on découvre des choses, des présidents partent avec des documents. La particularité des documents de Joe Biden, que le laptop de son fils va confirmer, c'est quand même un réseau d'affairistes dans lequel la famille Biden est engagée. C'est aussi tout ce qui se joue autour de l'Ukraine. Ce sont ces documents-là qu'il avait, top secret, l'Ukraine, qu'on dissimulait probablement à M. Trump, les documents secrets sur l'Irak, les documents secrets sur l'Afghanistan, vous voyez, toutes des choses, des sujets, des hotspots, comme on dit, des points chauds où ben, le président Trump aurait appris, certainement pris connaissance de toute l'immensité du non-fondé des guerres menées par les démocrates. Alors il fallait que M. Biden s'enfuit avec les documents comme un bandit. Alors il est condamnable, bien sûr, par la loi, mais compte tenu de toutes les ramifications de l'histoire. Mais il ne le sera pas, il ne le sera pas. Ça va encore, il trouvera encore une pichenette puisque la justice américaine pour se ridiculiser encore plus, alors que la Cour suprême, on faisait appel à elle lorsqu'il y avait ce flottement dans l'élection de 2020. La justice, je crois que c'est en Californie, je ne sais plus où, au Texas ou en Floride, l'un des trois États, je ne sais plus lequel, vient de rejeter la plainte de M. Trump et de ses avocats, et leur a infligé une amende de, je crois, de ces 100 millions de dollars, je ne sais plus, pour une plainte abusive contre Hillary Clinton, qui a fraudé en 2016 dans les mêmes conditions que le président Biden, parce qu'elle a fait monter la sauce, une accusation frauduleuse de M. Trump disant qu'il était aidé par la Russie. Ils ont monté, ils ont fabriqué un dossier, mais c'est toute une histoire extraordinaire. Mais la justice n'a rien dit, bien évidemment. Donc, on a la justice qui ne fonctionne pas. Et quand une justice ne fonctionne pas, que voulez-vous? On peut même soupçonner le timing de cette loi anti-avortement que la Cour suprême prend. Parce qu'elle voit très bien que c'est pour embêter les républicains, pour les gêner. Et toutes les méthodes sont mises en place pour tricher les élections, c'est incroyable, et pour jamais connaître la vérité. Donc, Carl Turkson nous dit que ça date depuis Nixon, cette histoire, et que tout le scandale dans lequel des écoutes il a été mené était orchestré et organisé par le FBI, qui ensuite s'est, parce que le président Nixon découvrait un peu que ben, la CIA n'était pas nette, qu'elle était assassine, pareil que le FBI. Donc on a monter un coup comme ça pour le dégager. Et on a choisi Depuis, le vice-président est là, en fait, s'il est en embuscade, hein, il est placé un peu par les partis et puis par le deep state, comme on dit. Pour le deep state, c'est donc l'association du FBI, de la CIA et du complexe militaro-industriel et puis plus les médias. Ils sont placés là, ces vice-présidents, en embuscade pour que, à la moindre erreur, si jamais le président devait être impeach, leurs pions, ce sont des pions, des vice-présidents. Monsieur Biden, on voit très bien aujourd'hui, c'était un pion. Il est toujours. Leur pion remplace immédiatement le président et le business continue as usual. Et donc, ce qui s'est passé depuis avec Nixon a été le détonateur, voilà, de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est depuis cette terre-là, ce moment-là, que la démocratie américaine n'existe plus. Bien sûr, si elle n'existe plus aux États-Unis, elle n'existe plus nulle part. Et on fait ce qu'on fait. Alors, c'est stupéfiant, c'est surprenant que M. Biden, auteur ou complotiste ou participant d'une telle fraude et manigance, d'une telle attaque contre le système de la démocratie, soit le premier à parler démocratie matin, midi et soir. Ça, c'est les démocrates. Vous savez, les démocrates, c'est plus grand. C'est la démocratie, quoi. Voilà, c'est la démocratie. Bon, on va pas commenter plus que ça. C'est bien parce que on croit toujours tout maîtriser et puis il n'y a pas de crime parfait. Voilà, c'est ce que ça nous dit. À un moment donné, les choses dérapent et que, malgré tout, la présence des républicains à la House, la majorité, va changer beaucoup de choses. Et Elon Musk, vraiment, c'est le héros de l'année dernière, il a donné un coup de fouet, je dirais, comment on dit ça, un coup de fouet, un coup de pied à la fourmilière, voilà, de cette pseudo-démocratie. Donc c'est le coup d'envoi d'une, on va espérer, d'une refondation de quelque chose qui soit meilleur, parce que maintenant que le FBI est ébranlé, vraiment jusque dans ses fondations, que tout le système est décapité comme ça par Elon Musk, vraiment ça va avancer et la House, les conservateurs, ou le parti conservateur comme on dit, a vraiment une très bonne carte à jouer, une bonne fenêtre de tir, malgré leurs propres dissidences, je ne sais pas si on peut dire les dissidences, les petits conflits internes. Je crois qu'ils vont réussir à renverser quand même cette table démocrate et à remettre quand même un peu de l'ordre dans cette maison américaine qui tombe comme un château de cartes, où la famille Biden se révèle être quelque chose de monstrueux. Il y a lui, il y a ses deux frères, et tout le monde est dans les affaires, hein, et tout le monde a bénéficié de ci, de ça, des crédits, des facilités, tout en utilisant le passe-nom, le passe-droit, le mot de passe. Le mot de passe qui était vice-président des États-Unis. Alors, ça nous ramène à Madame Kamala Harris, qui est vice-présidente, et dont on voit très bien qu'elle avait été choisie sur des critères non méritoires, mais tout simplement biaisés. On parle, c'était racialisé, elle serait noire, ben oui, tellement noire qu'elle est indienne. Oui, je veux dire, vous voyez le profil, elle est noire, ben, Kamala Harris, noire. Laissez-moi rire, mais vous voyez, on a pris pour ça. Vous êtes donc aujourd'hui politicien, pas parce que vous avez le mérite, mais parce que le système sent déjà comment il peut vous manipuler, comment il peut trafiquer votre image à son, pour son propre compte en créant une confusion incroyable dans l'esprit et la mentalité des moutons que sont devenus les électeurs. Et de toute façon, c'était, il y a un truc qui est facile, qui a jeté les bases de cette moutonnerie électorale dont on ne voyait pas très bien comment cela pourrait être possible au début. C'est la fashion. La fashion, ça a l'air de rien. Mais la fashion, c'est ce qui vous oblige à suivre, vous voyez, c'est la mode, hein, c'est la mode, on suit, on suit, on suit. À force, les médias se sont branchés là-dessus, ils surfent là-dessus, il suffit que vous donniez le là, et que vous enrobiez tout cela. Vous savez, la fashion, c'est très joli, c'est bling-bling, c'est clinquant, c'est comme on dit, c'est glacé, c'est papier glacé, de couleur, c'est coloré. Et quand vous colorez tout cela, vous voyez, la propagande n'est pas allée chercher loin, mais ou plutôt la fashion ne cherche pas loin, elle se cale vraiment sur les modèles de la propagande, sauf qu'elle est en color, voilà, elle est en color, et que peut-être la propagande c'était trop en noir et blanc, là c'est du color, c'est, comment on va dire, à l'œil c'est très beau, c'est esthétique, c'est stylisé, et on réfléchit plus, bon, on est dans le réflexe. Et une fois que le public, le citoyen est façonné par cette fashion, il y a eu juste un petit déplacement pour ramener l'électorat à suivre une fashion. Et la fashion, elle est dictée dans la politique par les démocrates. Alors, si vous voulez être fashion en politique, soyez démocrate, sinon vous êtes ringard. Vous voyez, on a réussi à créer cette vision-là et c'est ça qui est un peu comme le voile que les républicains doivent déchirer pour ramener l'électorat à lui, mais ça va être très compliqué parce que les gens, ils ont les androïdes, hein, et dans les androïdes, c'est la fashion, hein, et ça, c'est démocrate, hein, la Silicon Valley, c'est démocrate, hein, les high-tech, bon, enfin, il y a un travail de fond à faire. À la fois pour les républicains et peut-être pour ceux qui veulent que les choses changent. Mais alors, est-ce qu'on le veut encore? On est fatigué de parler parce que vraiment, les électeurs ont été tellement conditionnés que même lorsqu'ils semblent se réveiller pour dire oui, mais oui, mais oui, mais il y a ça, il y a ça, ils ne sautent pas le pas. Soit ils passent dans l'abstention en disant tous pourris, soit ils votent démocrate. Il faut vraiment être entrer dans la résistance, vous voyez, on est dans d'autres époques là, hein, dans la résistance pour voter conservateur. Bon, la politique, on ne sait plus quoi dire, on en perd son latin, bah, il faut quand même en parler parce que si on n'en parle pas, ça va être pire. Et quand on en parle, vous voyez les effets, on a existé sur les Twitter Files, le FBI a paniqué. Et voilà, ils réagissent. Oui, Monsieur Joe Biden, il y avait les documents, donc il n'y avait pas que Monsieur Trump. Alors, quelle est la justice qui va s'appliquer maintenant? Un juge spécial a été nommé. Bon, oui, c'est le flou artistique total, pour ne pas dire le souk. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Bock. Je vous dis à bientôt.